Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct. Composez-le +1 202 205 26 33. Et donc je reprends, +1 202 205 26 33. Et bien sûr, pour ceux qui s'attendaient à la voix de Nicolas Pineau, c'est plutôt Yacouba Ouédraogo qui est là ce soir. Pour Sporama, nous faisons d'ailleurs un coucou à Nicolas Pineau qui reprendra sans doute. Et on va tout de suite saluer nos intervenants habituels. L'on retrouve Amdine Si à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
On a aussi avec nous Amine Birouk au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
En ligne également, Élisée. On patine à Boïko au Bénin. Bonsoir Élisée. On va prendre des nouvelles de Jules Valentin Ngoye qui nous revient. Hein. Lui depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être parmi nous ce soir.
Okay.
Alors, l'Égypte et le Nigeria sont les premiers pays qualifiés pour le Mondial 2018. Dans un stade de Borg El Arab à guichet fermé, les pharaons validaient leur billet en dominant le Congo 2-1, doublé de Mohamed Salah au terme d'un scénario assez fou. Le but libérateur est intervenu à la 95e minute avec 4 points d'avance sur son dauphin l'Ouganda, le vice-champion d'Afrique en titre. 12 points ne peut plus donc être rejoint. Les pharaons joueront leur troisième phase finale de Coupe du Monde après 1934 et 1990. Amine, c'est une renaissance pour l'Égypte, vice-championne d'Afrique et qui assure là sa qualification pour le Mondial après 28 ans d'absence.
Et c'est surtout un rêve pour toute une génération de footballeurs égyptiens. Il faut juste rappeler que depuis 1990, il n'y avait pas de trace de joueurs égyptiens ou de la sélection égyptienne en Coupe du Monde. Les tentatives ont été nombreuses, elles ont été vaines. À chaque fois, l'Égypte a joué les premiers rôles sur le plan continental. Elle a quand même gagné 3 cannes consécutives durant cette même période, voire 4 avec celle remportée en 1998. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec une génération de joueurs talentueux, des clubs présents dans les compétitions africaines, il y avait toujours un petit quelque chose qui manquait à la sélection égyptienne quand il s'agissait d'aborder les éliminatoires du Mondial. Cette fois-ci, avec Hector Cooper, avec Mohamed Salah comme leader, les Égyptiens ont tenu leurs promesses. Ils ont surtout réussi un parcours quasiment parfait. 4 victoires sur les 5 confrontations d'un groupe qui n'était pas facile au début, avec notamment la sélection ghanéenne. Et l'Égypte, face au Congo, face peut-être au maillon faible, a produit la moins bonne partie ou la rencontre la moins convaincante de ces éliminatoires pour les pharaons. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour que ça puisse se décanter avec ce pénalty inscrit par Mohamed Salah à la 95e minute. Mohamed Salah qui s'érige comme le héros de toute une nation, le meilleur joueur, ou en tout cas un des joueurs les plus réguliers du continent, le meilleur buteur de ces éliminatoires avec 5 réalisations et surtout ça annonce une belle année pour une sélection égyptienne qui a déjà été vice-championne d'Afrique au Gabon en 2017. Hector Cooper a réussi sa mission. On va voir maintenant et il faudra confirmer lors du Mondial en Russie.
Merci bien, Amine. Alors, bien avant, les Sapper Eagles du Nigeria ont obtenu leur ticket samedi devant les Chipolopolo de la Zambie grâce à un but d'Alex Iwobi, score final 1-0. Ce sera la 6e Coupe du Monde pour le Nigeria qui se tire du groupe B, celui dit de la mort avec 13 points, soit 5 de plus que la Zambie 2e. Jules, le Nigeria a été insaisissable dans ce groupe, a priori relevé sur le papier.
Oui, surtout le Nigeria a bien démarré les éliminatoires, contrairement à ses rivaux directs et désignés, qui étaient le Cameroun et l'Algérie. Un très bon démarrage qui partait du fait que les Nigériens ont décrypté leur lourde défaite à domicile face à l'Afrique du Sud lors des éliminatoires de la CAN 2019. Et donc, ils ont fait le rappel des anciens, parce qu'ils avaient essayé de rajeunir l'équipe, ça n'a pas marché, et ces anciens ont joué vraiment leur rôle de leader. Et tout de suite, le Nigeria a commencé dans de bonnes conditions en gagnant en Zambie et en gagnant ses matchs à domicile. Alors, dans ce cas, le club était, enfin, l'équipe était bien lancée et en profitant des faux pas du Cameroun qui accumulait les nuls et de l'autre côté, l'Algérie qui était franchement très fragile, et le Nigeria a fait le break et se qualifie très logiquement, c'est l'équipe la plus sérieuse de la poule et qui a su prendre le taureau par les cornes.
Alors, le Cameroun, on reste avec toi, Jules. Le Cameroun et l'Algérie, habituels mondialistes, ce sont les grosses déceptions de ce groupe-là.
Oui, déception, surtout pour l'Algérie. Quand on voit son potentiel, quand on se rappelle qu'à la dernière Coupe du Monde, c'est l'équipe qui a le plus inquiété une Allemagne dominatrice pendant cette Coupe du Monde, quand on voit également que c'est une équipe qui est capable de changer pratiquement de rythme à tout et s'adapter à l'adversité. Donc, ça a été une très grande déception. On dirait que les Algériens n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Du côté camerounais, c'est une équipe nouvelle qui, ma foi, manque d'expérience, mais qui se construit et progressivement, sûrement dans l'optique de la CAN 2019. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'elle se fasse surclasser par un Nigeria beaucoup plus expérimenté avec le retour des anciens.
Alors, Amine, Jules l'évoquait tout à l'heure, on se demande bien qu'est-ce qui s'est passé véritablement avec l'Algérie.
Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a eu trop d'instabilité. On rappelle qu'entre la Coupe du Monde 2014 et le départ de Vahid Halilhodžić, il y a quand même eu l'arrivée de Gourcuff, la mayonnaise n'a pas pris. Celle de Rajevac, elle a duré 2 matchs. Il y a eu ensuite Likens pour une CAN décevante et un quatrième entraîneur qui est Lucas Alcaraz. Des joueurs qui ont fait un peu la loi dans le vestiaire et qui contrôlaient un peu ce qui se passait au sein de l'équipe nationale. Aujourd'hui, il va falloir que l'Algérie, que les joueurs remettent le bleu de travail parce qu'ils ont manqué d'humilité. Les talents individuels ne manquent pas, les Brahimi, les Mahrez, d'autres joueurs comme Bentaleb qui évoluent à Schalke sont des joueurs talentueux. Mais il faut qu'ils se mettent au service du collectif et surtout qu'ils comprennent qu'à un moment ou à un autre, un sélectionneur, ils doivent le respecter. Donc, du côté algérien, c'est une véritable claque avec ses éliminatoires totalement manquées, un seul point pris sur 15 points possibles. Il va falloir surtout se remettre en question dans l'optique des éliminatoires de la CAN 2019. Aujourd'hui, le football algérien est dos au mur et dire qu'il y a 4 ans, l'Algérie avait été la sélection africaine la plus séduisante.
Alors, dans le groupe D, le Sénégal a réalisé une bonne affaire à Praia. Les Lions de la Teranga ont arraché la victoire au Cap-Vert 2-0 et prennent la tête du groupe D en attendant la double confrontation contre l'Afrique du Sud. 6e journée et ce match, bien sûr, à rejouer. Diafra Sakho et Cheikh Ondoye ont permis au Sénégal de prendre 2 points d'avance sur le Burkina, surclassé 3-1 par l'Afrique du Sud. Alioune Cissé, sélectionneur du Sénégal, rassure, ce n'est pas encore fini.
C'était un tournant important, c'était important de gagner ici. Je pense que nous avons fait un pas, c'est vrai, mais rien n'est encore fini. Pour le mental, aujourd'hui, gagner ici, ça donne un sens aussi au travail qu'on est en train de faire. On doit garder cette humilité-là et continuer à travailler.
Amdine Sy au micro, en fait. Alioune Cissé au micro d'Amdine Sy pour VOA Afrique. Grosse désillusion par contre pour les étalons qui ont été surpris par l'Afrique du Sud. 3-0 à la mi-temps, 3-1 score final. Paulo Doité, sélectionneur du Burkina, le reconnaît. L'Afrique du Sud s'est métamorphosée pour ce match.
Avec cette qualité de cette équipe qui est ici aujourd'hui qu'on a trouvé, et que tout le monde pense qu'il est mort, le Sud-Afrique a donné une prouve que dans le football, il n'a pas de favori. Si ils ont gagné 3-0 au Burkina, pourquoi ils ne peuvent pas gagner au Sénégal? Donc, il faut continuer. On a eu une mauvaise journée, une mauvaise 45 minutes. On a perdu clairement le contrôle du jeu, de la situation. Quand on a souffert un but au premier minute, un but, c'est pas possible au haut niveau, à rentrer pour un match et dans une touche, souffrir un but.
Paulo Doité au micro de Zoumana Wonogo pour VOA Afrique. Amdine, cette défaite du Burkina, combinée à la victoire des Lions de la Teranga face aux Requins Bleus du Cap-Vert, booste le Sénégal dans ce groupe D-là. Les Lions sont désormais premiers avec 8 points et 2 matchs à jouer encore.
Tout à fait, Yacouba. Les Lions savaient déjà le résultat terrain du Burkina avant quand même d'entrer sur le stade de Praia. Ils savaient que ils avaient leur destin en main, il fallait gagner et ils l'ont fait. Certes, ils ont gagné par 2-0, mais c'est une victoire dans la douleur, puisque les Lions ont souffert durant la période. C'est vrai qu'il y a eu un vent très violent, mais les Cap-Verdiens également ont bien joué la
première partie de ce match, les Lions de Alexis ont fait le dos rond jusqu'à la seconde période avec un coaching gagnant quand même de Alexis qui a fait rentrer Maignan qui a réussi et sa première avec l'équipe nationale du Sénégal qui a permis à Diafore Sakho quand même d'ouvrir le score à la 82e minute. Parlant de Diafore Sakho, c'est un retour gagnant puisqu'il n'était plus revenu en sélection depuis novembre 2015. Diafore Sakho qui a montré la voie à suivre à ses partenaires et un autre remplaçant, un autre coaching gagnant pour Alexis, c'est Cheikh Ndoye, l'ancien capitaine d'Angers qui marque un super but dans les arrêts de jeu. Avec cette victoire, vous l'avez dit, le Sénégal prend non seulement les commandes du groupe D, mais le Sénégal a maintenant son destin en main, puisque maintenant, un seul point suffira au Sénégal lors des deux confrontations contre l'Afrique du Sud. Mais attention, comme Alexis l'a dit, ce n'est pas encore gagné. On se rappelle des éliminatoires de la Coupe du Monde 94. La France avait besoin de petits points. La France devait recevoir l'Israël et le Bulgarie. Et la France était inclinée à deux reprises. Donc les Lions sont conscients de cela et ils feront attention parce que rien n'est encore joué. Mais le Sénégal a désormais son destin en main, Nicolas.
Alors, Amdine, on va rester avec toi. Et tout à l'heure, tu as évoqué le cas d'Aliou. Tu as félicité pratiquement Alioune Cissé. Il a été beaucoup critiqué par ses anciens coéquipiers, notamment Habib Bey et Elhadj Diouf, Alioune Cissé.
Oui, tout à fait. Il a été critiqué non seulement par Habib Bey et Elhadj Diouf, mais par le peuple sénégalais, hein, puisque le Sénégal n'avait plus gagné depuis la première journée. La première victoire du Sénégal remontait quand même en novembre 2016, lors de la première journée. On avait battu quand même le Cap-Vert par 2-0. Ensuite, il y a eu cette défaite contre l'Afrique du Sud. Et heureusement, ce match va être rejoué. Ensuite, il y a eu les deux nuls. Pour les deux nuls, on peut considérer comme des nuls de fête pour les Sénégalais pour le match aller à Dakar. Il n'y avait pas de match, les Lions n'avaient pas joué. Et pour la seconde match, joué à Ouagadougou également, les Sénégalais ne pouvaient pas comprendre le Sénégal qui a joué à 11 contre 10 pendant presque 60 minutes. Et les Sénégalais étaient incapables de battre l'équipe burkinabé. Et c'est pour cela qu'Alexis a été très critiqué. Mais Alexis a pris quand même toutes ses critiques et il a essayé quand même de faire changer les choses en convoquant Maignan et Diafore Sakho parce que l'attaque du Sénégal était un peu le moyen faible de cette équipe puisqu'on comptait sur Moussa Sakho qui ne joue plus dans son championnat. Il y a également Mambirem Diouf qui joue à Société mais qui joue pratiquement presque latéral. Alexis a pris son courage à deux mains, il a essayé de changer un peu et cela lui a réussi, heureusement pour lui et tant mieux pour le Sénégal qui a désormais son destin. Mais parce qu'on dit le potentiel est extra au Sénégal, mais sur le plan jeu, sur le plan résultat, ça ne suivait pas. C'est pourquoi il a été beaucoup critiqué. Mais heureusement pour lui, le Sénégal a gagné et le Sénégal est bien parti pour décrocher une deuxième qualification historique. Parce qu'on se rappelle de 2002, c'était une qualification. Depuis lors, le Sénégal court derrière cette deuxième qualification. Yacouba.
On l'espère bien. Amdine, pour vous, Sporama revient après cette pause. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. La Tunisie et le Maroc, ils sont presque. Il ne manque plus qu'un seul point aux Aigles de Carthage pour se rendre en Russie. La Tunisie a dominé la Guinée 4-1 avec un triplé de Youssef Msakni. À un match de la fin, les Tunisiens 13 points conservent donc 3 points d'avance sur la RDC qui a battu la Libye 2-1. Thierry, il y a une finale en vue dans ce groupe A là. Alors, on n'a pas encore Thierry en ligne. On a Jules, mais on a aussi Amine. Amine, on se tourne vers toi. Il y a une finale en vue dans ce groupe A, là.
Une finale, surtout peut-être un derby fratricide qui décidera de beaucoup de choses. Ce sera Tunisie-Libye, il sera joué certainement en Égypte. Les Tunisiens ont été menés au score à Conakry. Ils ont eu les ressources pour égaliser peu avant la mi-temps. splendide coup franc de Msakni, qui a ensuite réussi un véritable numéro puisqu'il inscrit deux autres buts. Il y a eu le quatrième but, le troisième sur le plan comptable de Benamor à la 83e minute. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que l'équipe tunisienne par rapport à la CAN a changé quand même d'entraîneur. Kasper Zak a été débarqué. On rappelle qu'il avait été en sursis à la CAN avec une qualification en quart de finale. Mais la manière avec laquelle la Tunisie a été sortie par le Burkina Faso avait laissé à désirer. Du coup, les dirigeants se sont tournés vers un ancien qui est Nabil Mahloul. Et aujourd'hui, l'équipe se porte très bien. Elle a eu la possibilité de battre la RDC dans la vraie finale du groupe. Elle a réussi à revenir au score à Kinshasa alors qu'elle était menée 2-0. Et aujourd'hui, un seul point suffirait aux Tunisiens pour décrocher leur cinquième qualification Coupe du Monde. Le football tunisien travaille très bien. Les clubs sont très bien structurés. Il y a un mix entre joueurs évoluant dans le championnat local et quelques expatriés. Et aujourd'hui, on voit qu'après 20 ans de professionnalisme, la Tunisie, tout comme l'Égypte, retient un peu les dividendes d'un travail en profondeur qui a été fait depuis quelques années.
On a un auditeur de la RDC à l'antenne. On l'a, Georges? Ok, et donc on a Valentin en ligne. Hein. Bonsoir, Valentin.
Oui, bonsoir.
Vous êtes de la RDC. On parlait justement de la Tunisie qui a surclassé la Guinée à domicile 4-1. Les Léopards ont gagné 2-1 face à la Libye, mais il y a encore du chemin à faire. Hein.
Oui, il y a encore un chemin. Nous sommes désolés parce qu'on avait raté ici à Kinshasa un score de 2-2 partout. On devrait arracher la victoire ici à Kinshasa. Malheureusement, la Tunisie nous a mis à genoux. Et bonne chance à la Tunisie parce que je vois un bon football. La Tunisie pratique vraiment un bon football mondial et nous lui souhaitons une bonne chance de présenter le groupe en bonne et due forme au niveau de la.
Vous êtes fair play, hein, Valentin. Après le boulevard laissé par la Côte d'Ivoire tenu en échec au Mali 0-0 vendredi, les Lions de l'Atlas, eux, ont surclassé le Gabon 3-0 samedi pour s'emparer des commandes du groupe C avec un point d'avance sur les éléphants. Justement, une équipe du Mali qui se prépare pour l'avenir, qui a rendu la tâche difficile à la Côte d'Ivoire. C'est ce que fait croire, en tout cas, Mohamed Bagassouba, sélectionneur intérimaire du Mali.
Nos ambitions, c'était de gagner. Quand on est au front, un chef de guerre veut toujours remporter la victoire. Bon, naturellement, la victoire n'est pas venue. Il y a eu beaucoup d'espoir qui s'est dessiné à travers cette évolution de cette jeune formation. D'autant plus que le plan de jeu concocté pour battre la Côte d'Ivoire a été bien mis en marche, tant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Ce qui est tout à fait rare de posséder le ballon face à une grosse équipe ivoirienne pendant deux mi-temps. Je vous dis sincèrement, on a fait du travail. Et l'avenir appartient certainement à cette jeunesse malienne qui a du caractère, non seulement du talent, mais qui a du caractère. Donc nous osons croire que nous sommes partis de bon pied.
Alors Mohamed Bagassouba au micro de Siaka Traoré pour VOA Afrique. Ce résultat justement condamne la Côte d'Ivoire à une finale et à Abidjan face au Maroc pour la dernière journée. Le sélectionneur des éléphants Marc Villemotte compte bien la jouer à fond.
Le positif, c'est qu'on a pris un point ici. Je crois que beaucoup d'équipes ne prendront pas de points ici. Donc ça veut dire que nous, on l'a pris au caractère, au courage, parce qu'on voulait absolument avoir une finale à Abidjan avec un stade qui sera, j'espère, hyper comble et que tout le monde viendra nous soutenir.
Marc Villemotte au micro de Siaka Traoré pour VOA Afrique. Et justement, on a un auditeur ivoirien en ligne. Bonsoir. Salifou Diallo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Apparemment, vous êtes en train de faire la fête, là.
Oui.
Ben, vous êtes dans un coin bruyant. On espère que vous allez parler assez fort pour qu'on vous entende.
Oui.
Allez-y.
Moi, j'apprécie les matchs passés entre Mali et Côte d'Ivoire. Là, franchement, l'équipe malienne a montré leur fidélité, mais manque de puissance pour gagner les Ivoiriens. Mais je l'encourage pour qu'ils n'aient qu'à continuer pour jouer les matchs comme national. Je crois qu'il peut souhaiter bon sens à l'équipe qui sont qualifiées. Bon, je peux souhaiter, bon, j'ai qui n'a pas qualifié aussi, n'a pas bien rentré à la maison parce que c'est le football. Si tu n'as pas gagné aujourd'hui, demain tu peux gagner.
Merci. Ben. Vous également, vous êtes fair play. Décidément, les supporters de ce soir, ils sont très fair play. Alors, Élysée, la Côte d'Ivoire a frôlé la défaite depuis à Bamako.
Oui,
Yacouba, il faut le dire, puisque les jeunes Maliens, laissez-moi m'exprimer comme ça, puisque c'est une équipe fortement remaniée qui était aux prises avec l'équipe ivoirienne qui était méconnaissable vendredi dernier. Les Maliens ont dominé sans partage cette explication. Lui, c'était la maladresse des attaquants maliens, sinon on aurait pu assister à la défaite des Ivoiriens. Maintenant, est-ce que, bon voilà, la transmission, hein, vous bien, depuis le sacre des Ivoiriens il y a cela quelques années, bien, cette équipe ivoirienne n'arrive plus à retrouver son jeu. Et l'entraîneur belge, hein, qui a été mis à la tête de cette sélection, est-ce qu'il pourra trouver le mot juste pour pouvoir défaire quand même l'ancien entraîneur qui a permis justement à la Côte d'Ivoire de remporter la CAN qui a lieu du côté de la Guinée équatoriale? Ce sera très difficile puisque Hervé Renard connaît bien sûr ce football ivoirien et on attend le 6 novembre prochain pour être vraiment fixé sur le qualifié de ce groupe. Mais laissez-moi vous dire que les Ivoiriens sur papier ne sont pas favoris pour une première fois puisque ce sont les Marocains qui sont désormais favoris.
Alors, on a également un auditeur en ligne du côté de la République démocratique du Congo, Valentin. Ah ok, donc c'est un retour de Valentin. Rebonsoir Valentin.
Oui, bonsoir. Je vous suis en bonne et due forme de l'autre côté, je suis à Kinshasa.
Ok, allez-y, on vous écoute.
Oui, j'ai mis un commentaire sur le Ghana, parce que le Ghana nous a habitués avec un bon football, mais maintenant remplacé par l'Égypte et disqualifié. Et ça m'a beaucoup désolé, parce que le Ghana met à genoux souvent les équipes européennes, y compris les équipes américaines. On a vu en Afrique du Sud comment le Ghana a compliqué les règles, malheureusement, et les pénalties qui a été gâché par Adiane. Et aujourd'hui, le Ghana est disqualifié. Nous accordons aussi la chance à l'Égypte de nous faire présenter un beau football, parce que le Ghana qui nous a habitués, qui pouvait aussi prendre la victoire et donner de la chance à l'Afrique de... Oui, vous me suivez?
Allez-y, on vous écoute.
Oui, oui, c'est le Ghana qui pouvait donner de la chance à l'Afrique, parce que jusqu'ici, les équipes africaines n'ont jamais obtenu la Coupe du Monde. Alors moi, j'avais une conviction ferme au Ghana qui pouvait nous arracher, parce que le Ghana est habitué avec la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, disqualifié, ça m'a beaucoup désolé.
Voilà, on comprend mieux comment vous êtes, jusqu'à quel point vous êtes assez déçu et vous êtes toujours nostalgique de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. C'est aussi ça le foot, ça va très vite. Alors, Amine, le Maroc a dominé le Gabon 3-0 et devient du même coup premier du groupe C avec 9 points contre 8 pour la Côte d'Ivoire. Les garçons d'Hervé Renard sont très en forme, il faut le dire.
Et le Maroc a disputé un match référence. Depuis de très nombreuses années, on n'avait pas vu une équipe aussi séduisante, aussi disciplinée, aussi solidaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une victoire 3-0 avec un triplé de Boutayeb, 72 jusqu'à 75% de possession. Une équipe du Gabon qui n'a pas existé sur le terrain. Aubameyang a été fantomatique. Et puis, symptomatique de l'embellie du football marocain, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une configuration que le Maroc n'avait plus vécu depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002. Le sort en avait décidé autrement parce qu'il fallait prendre un point à Dakar. C'est le Sénégal qui avait remporté la victoire et qui était parti en Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon. Mais depuis 20 ans, les Marocains attendent une Coupe du Monde et jamais ils n'ont été en aussi bonne posture depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Ce qui est important aussi, c'est qu'on se retrouve dans la même configuration que lors de la dernière CAN. Le Maroc avait besoin d'un nul, voire d'une victoire pour pouvoir passer. Il avait deux solutions sur trois. La Côte d'Ivoire devait gagner. On se retrouve quasiment dans le même ordre, une finale à disputer face à un adversaire qu'on connaît bien, qu'Hervé Renard connaît très bien puisqu'il a été le sélectionneur ivoirien victorieux de la CAN 2015, mais dans le chaudron d'Abidjan, les choses pourraient être différentes. Donc il faudra une équipe du Maroc solidaire, rigoureuse, pour pouvoir faire rêver toute une nation.
Alors, et donc, merci bien, Amine. On tire vers la fin de cette émission. On va dire bonsoir à nos intervenants habituels et fidèles qui sont toujours là. Jules Valentin Ngoué du côté de Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amdine Sia Dakar, bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
En ligne également Élisée Mpatina Boyko au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et à lundi prochain.
Bonsoir Amine Birouk, c'est au Maroc.
Bonsoir et à lundi prochain.
Merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.